une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle parce que leurs troupes s'y honorent.
Vous êtes bien sur Fréquence 7, vous écoutez ce soir un nouvel épisode de Billets d'Afrique. Décembre est là. L'actualité ressemble à ce que vous pouvez voir si vous jetez un œil par la fenêtre. Il fait nuit, il fait noir, il fait froid. Quelque part de l'autre côté de la Méditerranée, des gens risquent leur vie pour en tenter une meilleure en s'embarquant sur des bateaux bondés dans l'eau glacée. Ce qui pousse ces personnes à prendre un tel risque, c'est que chez elles, la situation n'offre pas ou trop peu d'espoir. Bon nombre de ces gens que demain nous appellerons migrants et à qui nous refuserons d'ouvrir la porte sont partis d'Afrique, le continent le plus riche du monde. Même si notre culture et nos médias tendent à camoufler cette implacable vérité en nous faisant croire que l'Afrique est pauvre, sans les richesses du sous-sol africain, aucun développement économique pour l'Occident. Et oui, si vous entendez ma voix, c'est au prix de l'énergie. Et donc en bénéficiant directement de l'uranium qui permet de faire de l'électricité, du pétrole ou bien des terres rares pour les panneaux solaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays à qui l'on doit depuis des décennies d'avoir notre train de vie. Le Niger, un pays dont la plupart des Français se foutent totalement, alors que l'on a dépendu de sa bonne amitié pour avoir de l'électricité, et pour s'assurer cela, tous les gouvernements ont misé sur une mécanique bien rodée, la France-Afrique. Ou devrais-je dire plutôt l'Afrique-France, puisque la France-Afrique c'est fini. Si, si, c'est Macron qui l'a dit. Et c'est pour ça que le dernier grand sommet s'est appelé le sommet Afrique-France, et non pas France-Afrique. Subtil, hein? Mais si vous ne connaissez pas le Niger et ses habitants, si vous ne savez pas le situer sur une carte, ou dire qui est au pouvoir de l'autre côté, le Niger nous connaît bien. Entre ingérence politique et déploiement militaire, entre pollution à très long terme et aide au développement ironique, la France est malheureusement inévitable. Seulement, voilà la question du jour. Le coup d'État qui a déchu le président Mohamed Bazoum en juillet va-t-il rebattre les cartes ? Tintin. Mais d'abord, de quoi parle-t-on ? Le pays géographique, le Niger, a été tracé à la règle. Dans la région, tout a été colonisé par les Européens, plus précisément même par la France. Les frontières que l'on peut trouver aujourd'hui, tracées dans l'immensité du territoire, coupent l'Afrique comme un gros gâteau et ne représentent pas les limites de pouvoir des populations vivant là, mais bien les intérêts des Occidentaux. Ici, au moment des décolonisations officielles, il a s'agit de partager le monde, comme le dirait le chanteur Tiken Jaffa Coli, et ce sont depuis les populations locales qui en payent les conséquences. Le voisin de l'Est s'appelle le Tchad. C'est LE pays ami de la France, par excellence. Vous n'en entendez jamais parler ? Ce n'est pas un hasard. Les militaires et diplomates, eux, connaissent très bien, puisque ce n'est ni plus ni moins que notre avant-poste en Afrique. Un exemple parmi tant d'autres, c'est là que le président français est à Noël. Et lorsque Macron installe le fils du dictateur Idriss Déby au pouvoir, il assiste à la cérémonie sur un trône au premier rang, devant la veuve de Déby même et devant les colonels et ministres tchadiens. Les années 50 ne sont pas loin. Pour en revenir au Niger, le nord du pays, la partie la plus importante, est nommée Sahel. C'est une partie du Sahara à cheval sur le Tchad, donc le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Ensemble, ces pays ne partagent pas que le désert, mais aussi d'avoir de vives traces de la domination coloniale française, ou devrais-je dire de vives séquelles, puisque les populations sont terriblement pauvres, le sous-sol terriblement riche. Mais comment ça ? Avec quelques outils bien rodés, comme le franc CFA, qui assure une domination économique puisque les réserves effectives de l'or sont à la Banque de France. Et oui, c'est dingue, n'est-ce pas ? Avec aussi des élites politiques formées en Occident qui jouent le jeu de la coopération en recevant de l'argent pour le développement contre l'accès aux matières premières à faible coût. Mais attention, il n'a pas de corrompu sans un corrupteur. Et le corrupteur ici encore, c'est la France. Comme vous l'entendrez, ce jeu est aussi joué pour la gestion des gens qui veulent émigrer. Gestion, j'entends répression. Et évidemment, le tout tient grâce à une présence militaire française. Si l'on rajoute à ça la dette à payer à la France, et ces 15 dernières années, la montée de mouvements djihadistes armés, les pays sahéliens ont peu d'espoir d'autodétermination et de développement. Mais un vent souffle, celui du changement. Quel sera-t-il? Je ne peux pas répondre. Ce que je peux dire, c'est que les défis sont immenses. L'unité territoriale bâtie par les frontières met sous le même pouvoir politique des populations qui ne sont pas traitées de la même façon. Je fais référence aux Touaregs et à leur lutte pour avoir une terre. Avant de poursuivre, un mot sur le pouvoir. Il y eut au pouvoir le président Issoufou qui a passé la main à son petit poulain, le président Mohamed Bazoum, celui qui s'est fait putcher cet été. Malgré presque donc 4 mandats aux mains de la même famille politique, la communauté internationale a jugé le Niger en bonne santé démocratique puisque le président Mohamed Bazoum est issu d'une minorité ethnique. Mais ce regard est un regard très occidental. On ethnicise les rapports politiques nigériens pour dire que là-bas, tout n'est que querelle d'appartenance, clientélisme et copinage, refusant d'y voir un organigramme complexe. Il faut aussi vous dire que jusqu'il y a peu, les pays sahéliens faisaient partie du G5 Sahel, dont vous avez sûrement entendu parler sur vos chaînes d'information. Mais aujourd'hui, le G5 Sahel est moribond. Et pour comprendre le tout, il faut aussi connaître la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Une union entre les États censée les rendre plus forts pour permettre un libre-échange et une libre circulation. Sur ces précisions, voici une lecture partielle du dossier spécial Niger qu'a fait paraître le collectif anticolonial Survie, dont je vous ai déjà parlé. Je vous invite à le relire sur leur site internet, à le relire en entier, si vous avez le goût, vous pouvez même l'imprimer. Et vous trouverez sur leur site une mine d'informations.
Comme au Mali et au Burkina Faso, précédemment, la France récolte ce qu'elle a semé, l'échec de sa guerre contre le terrorisme et le paternalisme incurable des autorités françaises après des décennies de néocolonialisme ont renforcé les mobilisations populaires contre la présence militaire française. Ils ont contribué dans le même temps à légitimer les régimes issus des coups d'État militaires.
Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2023, le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été renversé par un coup d'État militaire mené par le général Abdourahmane Tiani, chef de la garde présidentielle, rejoint par l'ancien chef d'État-major des armées, le général Salifou Modi. Ils ont été ralliés par les autres officiers de l'armée pour, selon leur dire, éviter un bain de sang. Les putschistes se sont attribués le pouvoir sous le nom de Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. Ces événements font écho au scénario survenu quelques mois plus tôt au Mali, puis au Burkina Faso, même si chaque situation présente des spécificités. Au Niger, si l'on en croit différentes publications, le général Tiani craignait de se voir à son tour écarté de son poste, après le limogeage en avril du général Modi. Bazoum lui aurait aussi demandé de rendre des comptes concernant les fonds dédiés aux actions spéciales de la garde présidentielle, dont il jouissait plus librement sous le précédent président, Mahamadou Issoufou, dont il restait proche. L'attitude ambiguë d'Issoufou, plusieurs fois rapportée après le déclenchement du putsch, a également alimenté les suspicions sur sa complicité initiale avec les putschistes. Si Issoufou avait fait de Bazoum son dauphin, la volonté de ce dernier de reprendre le contrôle de la rente pétrolière constituait notamment une source de tension.
Un contexte commun.
Au-delà des motivations des acteurs, un contexte commun semble avoir facilité la réalisation des coups d'État dans les 3 pays, 4 si l'on compte le Tchad, où une succession dynastique anticonstitutionnelle n'a pas été considérée comme un coup de force par la diplomatie française. Et oui, il faut préciser en off qu'au Tchad, c'est le fils qui, comme dans un royaume, a succédé au père sous le bon regard d'Emmanuel Macron. Il ne s'agit sans doute pas tout à fait d'un hasard que ces coups d'État surviennent dans des pays en proie à des insurrections djihadistes, d'une part en raison des menaces sécuritaires qu'elles font peser sur les États, mais surtout parce que ces pays ont été engagés depuis une décennie dans la guerre contre le terrorisme, aux côtés de la France. La logique quasi exclusivement sécuritaire qui a prévalu, parfois imposée de l'extérieur contre les logiques nationales, a échoué à venir à bout des groupes djihadistes et leur a même permis de recruter davantage. En revanche, elle a contribué à renforcer le rôle, le pouvoir et l'importance politique des militaires. Dans les trois pays, les putschistes ont bénéficié de la disgrâce des régimes civils, jugés corrompus, incapables d'apporter des réponses aux crises sociales et sécuritaires, touchant une part grandissante de la population, et considérés comme d'abord soumis aux intérêts des Occidentaux. Ce discrédit a été alimenté par l'échec des ingérences militaires étrangères à laquelle les présidents africains avaient, de plus ou moins bon gré, fait appel. Si l'on ne peut pas dire que les prises de pouvoir ont été directement dirigées contre la présence militaire et l'ingérence de la France, le paternalisme incurable des autorités françaises a ensuite précipité les ruptures, et ce d'autant plus facilement que le rejet de la politique africaine de la France est devenu un carburant très efficace pour mobiliser des citoyens et citoyennes africaines qui veulent en finir avec les mécanismes de domination néocoloniaux les plus prévisibles, tutelle militaire, France CFA, ingérence politique. Ce qui, dans le langage de la presse française, revient à prendre la France comme « bouc émissaire commode ». On ne regarde donc plus les dominations que l'on a installées pendant des siècles. Non, on pleurniche d'être critiqué aujourd'hui.
Une intervention de moins en moins crédible.
En réalité, la France affiche une position d'autant plus ferme que l'hypothèse d'une intervention paraît fragile, en raison notamment des divisions africaines. Le Niger et le Burkina Faso, qui sont toujours sous le coup de suspension de la CEDEAO après les coups d'État, ont fait savoir qu'ils étaient prêts à défendre militairement le Niger en cas d'agression. Face à un risque d'embrasement général dans la région, déjà meurtri par les groupes armés, djihadistes ou non, peu de pays sont disposés à se lancer dans une aventure militaire incertaine et le consensus de façade n'a pas tardé à se lézarder. Hors CEDEAO, les réticences sont encore plus fortes. Alors que la France évacuait ses ressortissants, l'Algérie a mis en garde la CEDEAO contre l'éventualité d'une opération militaire. Mi-août, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, l'Union africaine, s'est abstenu de soutenir les résolutions de la CEDEAO, contrairement à la pratique habituelle, en raison des dissensions africaines. À supposer que la volonté politique de ses États membres ait réellement existé, la légalité d'une intervention militaire de la CEDEAO fait débat. Selon les statuts de cette organisation, à l'absence de légitime défense, l'usage de la force est en effet conditionné à la double autorisation de l'Union africaine et des Nations unies. Moins l'intervention de la CEDEAO a paru crédible et plus le président français a versé dans la surenchère. À l'occasion de la conférence annuelle des ambassadrices et des ambassadeurs fin août, il s'est même livré à un véritable feu d'artifice. Défendant le bilan militaire de la France au Sahel, il a accusé ceux qui parlent de défaite de reprendre les arguments de l'ennemi. Il a ensuite assuré que si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Récusant la rhétorique des nouveaux dirigeants de ces pays, il a même versé dans l'injure fort peu diplomatique. Si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque des prétendus panafricains avec les néo-impérialistes, on vit chez les fous, a asséné le président français. Il a également salué le travail de l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité, objet d'un nouveau bras de fer. Le CNSP venait d'exiger son départ, demande à nouveau refusée car n'émanant pas des autorités légitimes, un argument qui sera difficilement tenable dans la durée. Accessoirement, Ité est tristement connu au Niger et dans d'autres pays auparavant pour sa morgue toute macronienne et plusieurs dérapages sur les réseaux sociaux. Nous soutenons l'action politique diplomatique de la CEDEAO et militaire quand elle le décidera, a enfin réaffirmé Macron, mettant en garde les hésitants. J'appelle tous les États de la région à avoir une politique responsable parce qu'il faut être clair, si la CEDEAO abandonne le président Bazoum, je pense que tous les présidents de la région sont à peu près conscients du destin qui leur sera réservé.
Surenchère et isolement diplomatique.
Mais il apparaît à peu près évident aujourd'hui que le bellicisme et l'arrogance des autorités françaises ont eu un effet contre-productif, jusque sur ses partenaires les plus proches. D'abord parce que la position diplomatique de la France a grandement aidé les militaires putschistes à se parer d'une légitimité et d'un soutien populaire qui n'étaient pas initialement acquis. Au départ, les défenseurs connus des droits humains, les activistes anti-impérialistes ou anti-corruption, y compris parmi ceux qui avaient goûté la répression et la prison sous Issoufou et Bazoum, ont critiqué et condamné le coup d'État. Mais face au risque d'agression militaire brandi par la CEDEAO et la France, les mobilisations contre la présence militaire française et pour la défense des nouvelles autorités se sont confondues et sont allées crescendo, ralliant une part grandissante de la classe politique, des organisations et de la société civile et de la population. Début septembre, alors que les tensions entre le Niger et la France atteignaient leur point d'orgue, ce sont plusieurs dizaines de milliers de Nigériens et de Nigériennes qui sont descendus, manifestés à Niamey pour réclamer le départ des militaires français. L'intransigeance de la diplomatie française est d'autant plus mal vécue que tout le monde a en mémoire ses positions à géométrie variable en matière de coup d'État. Bon au Tchad, bon puis mauvais au Mali, acceptable en Guinée. L'actualité le rappelait avec cruauté. Lorsqu'est survenu le coup d'État au Gabon le 30 août, les autorités françaises ont justifié la clémence de leur réaction par le fait qu'il existe des doutes sur la sincérité des élections dans ce pays. Des doutes qui n'avaient pas tracassé la France outre mesure lors des précédents scrutins remportés par Ali Bongo. Mais il est vrai qu'au Gabon, le général Oligui a pris soin de donner immédiatement des gages concernant le respect des intérêts économiques et stratégiques français. Le Niger, depuis longtemps présenté comme un modèle de démocratie par les autorités françaises, était en réalité un régime gangréné par la corruption. Ce qui n'est pas une spécialité africaine, maniant facilement la répression à l'encontre des opposants et dans lequel les irrégularités électorales n'étaient pas absentes. Ceci explique aussi en partie comment, au Mali et au Burkina, le soutien populaire accordé aux militaires en dépit des mesures liberticides prises dans ces trois pays, notamment contre la presse, et du risque de confiscation durable du pouvoir. Dans cette situation, les partenaires occidentaux de la France au Sahel ont rapidement décidé de la laisser faire cavalier seul, de crainte de voir leur présence également rejetée. Les pays européens craignent de ne plus pouvoir utiliser le Niger, un des pays pivots dans le cadre de l'externalisation de la politique européenne de la répression des migrants. En 2015, l'Union européenne avait par exemple fait pression sur le Niger pour qu'il adopte une législation en partie rédigée par des fonctionnaires français, criminalisant les activités économiques liées à l'accueil et au transport des migrants, alors que la liberté de circulation est théoriquement garantie au sein de la CEDEAO. C'est ça, l'externalisation des frontières. S'assurer que les gens soient freinés, stoppés sur leur parcours de migration avant d'atteindre les frontières de l'Europe. Dans la ligne fasciste d'une Europe forteresse, il faut empêcher les pauvres de se presser à nos portes et donc sous-traiter ces rôles policiers pour réprimer loin de chez nous. Le Niger est l'un des pays avec lesquels l'Europe a un tel accord. Mais reprenons la lecture. Depuis 10 ans, la mission européenne ECAP Sahel forme les forces de sécurité à la lutte contre l'immigration et l'aide européenne est conditionnée à la bonne mise en œuvre de cette politique répressive. L'éventualité d'un nouveau conflit dans la région est perçue comme un risque de renforcement des migrations à destination de l'Europe. Mais il s'agit aussi de ne pas laisser les nouvelles autorités nigériennes chercher du soutien du côté des Russes. On aurait tort de penser que les États-Unis et autres pays européens ont délibérément poussé les militaires français vers la sortie. La répartition des tâches qui prévalait, risque opérationnel pour les Français, coopération, soutien logistique et fourniture de renseignements pour les autres, leur convenait jusque-là. Mais le rejet de la présence française les amène à privilégier leurs intérêts et revoir les partenariats noués avec la France. Les mesures de représailles adoptées récemment par la France à l'encontre des artistes et des étudiants sahéliens interdits de séjour en France va encore accroître l'hostilité populaire à l'encontre des autorités françaises.
Quelle perspective ! Comme c'était prévisible, après avoir été chassée du Mali puis du Burkina Faso, la France a été contrainte d'annoncer la fermeture de sa base militaire au Niger. Le 11 septembre, à l'occasion du sommet du G20, Macron a répété qu'un retrait des troupes françaises ne pourrait avoir lieu qu'à la demande de Mohamed Bazoum, sauf à mener une opération militaire qui ramènerait ce dernier au pouvoir, ce qui ne pourrait que susciter en Afrique des réactions virulentes et exposerait les expatriés français à un risque considérable. On ne voyait pas comment la France aurait pu maintenir des militaires contre l'avis des autorités en place. Finalement, après plusieurs semaines de blocus quasi complet de l'ambassade et de la base militaire française, Macron a été obligé, à l'occasion d'une intervention télévisée le dimanche 24 septembre, d'annoncer le retrait de son ambassadeur et des militaires français avant la fin de l'année pour qu'ils ne restent pas les otages des putschistes. Une victoire pour les militaires au pouvoir et les manifestants nigériens, nigériennes, qui se relayaient devant les enclaves françaises. Il est vraisemblable que la France va s'efforcer, en contrepartie, d'accroître sa coopération et sa présence militaire dans d'autres pays également menacés par les groupes djihadistes. Togo, Bénin, Ghana, Guinée, Sénégal. Mais la fermeture de la base militaire du Niger, après celle du Mali et du Burkina Faso, offre une opportunité pour imposer dans le débat public la revendication d'un retrait de tout le dispositif français d'Afrique et la fin de toute ingérence. À lire la presse française des dernières semaines, on sent déjà comme un vent de panique chez certains éditorialistes et un grand nombre de politiques qui plaident en faveur d'une réforme urgente de la politique africaine de la France, pour ne pas perdre toute influence. Les mêmes mettent volontiers cette perte d'influence au Sahel sur le compte des manœuvres informationnelles russes, sans voir que le succès de la propagande sur les réseaux sociaux et la présence de drapeaux russes dans les manifestations sont les symptômes et non la cause du rejet de la politique africaine de la France. Il faut espérer qu'une nouvelle ère s'ouvre, mais se garder de crier victoire trop tôt. D'une part, il faut se souvenir que c'est dans les périodes de crise que l'impérialisme français déploie ses capacités de nuisance les plus fortes et les plus violentes. La population ivoirienne, notamment à Abidjan en 2004 et en 2011, s'en souvient. La politique africaine de la France doit donc être complètement désarmée, mais l'idée selon laquelle la grandeur et la responsabilité historique de la France sur la scène internationale doivent être maintenues et ne peuvent l'être qu'en continuant à assurer le rôle de gardien de l'ordre en Afrique francophone et profondément ancré dans la classe politique française. D'autre part, un véritable bilan ne pourrait être établi qu'au terme d'une période un peu longue. Au cours de son histoire, la présence militaire française en Afrique a, selon des pays, connu des retournements de situations parfois inattendues. De plus, l'instrument militaire n'est qu'un des moyens qui concourt au maintien de relations de domination. Les outils économiques et financiers, à commencer par la dette et le franc CFA, restant d'une redoutable efficacité. Enfin, les discours récurrents sur la mort de la France-Afrique ont souvent eu comme effet, sinon comme objectif, de masquer ces mécanismes, de freiner les prises de conscience et d'empêcher les mobilisations encore nécessaires.
Je vous propose d'écouter un montage sonore d'une archive de l'INA. Elle date de 1970. Il y a là l'illustration de cette fameuse punchline du rappeur Kerry James « C'est vous qui avez lié votre histoire à la nôtre ». Eh oui, c'est bien nous, les Occidentaux, qui avons fait le choix de la croissance économique au prix du pillage et au détriment de l'immense majorité des Africains. Sur ces images, on peut voir des hommes noirs travaillant à pelleter, à forer, à pomper, à suer. Les hommes blancs, dirigeants, cigarettes au bec, occupés à de sérieuses considérations. Ce qu'ils cherchent dans le désert, c'était l'avenir, l'uranium. Vous êtes-vous déjà demandé qui avait versé sa sueur pour les ambitions du nucléaire français? À tous les écolos d'aujourd'hui, engagés dans les luttes contre le nucléaire, je veux rappeler ceci. Le poing qu'on lève aujourd'hui pour enrayer la machine est nécessaire, mais avant de penser aux déchets que nous laisserions à nos arrière-arrière-petits-enfants, pensons aux victimes d'aujourd'hui du nucléaire, qui habitent à des milliers de kilomètres parce que ce ne sont pas dans les sous-sols de la métropole française qu'on creuse pour extraire cette roche radioactive. Comment peut-on avoir aujourd'hui tout cet uranium sans en payer le prix? J'entends sans en payer le prix juste, sans que ça nous coûte cher.
C'est un pays qui a été vert et peuplé il y a à peine quelques milliers d'années, comme en témoignent ces girafes, gravées par les hommes d'alors. Aujourd'hui, ne reste que du sable, des étendues caillouteuses parcourues par quelques hautains touaregs, jamais mises en valeur sur quelque plan que ce soit. Ces sublimes étendues appartiennent au Niger. Le Niger n'a pas eu la même chance que l'Algérie, l'Arabie, le Koweït. Son désert ne recouvre aucune nappe de pétrole. Mais dès 1958, géologues et prospecteurs du commissariat français à l'énergie atomique laissaient pressentir que les plaines désertiques bordant l'Aïr, cette montagne qui se dresse au sud du Hoggar, pourraient bien cacher des gisements d'uranium. C'est désormais certain, les compteurs GGR le disent. Mais existe-t-il des gisements assez riches pour être exploitables? On quadrille le pays systématiquement par des forages pour connaître exactement l'état du sous-sol. C'était à 200 km au nord d'Agadez, dans un pays couvert de gros graviers et si plat sur des centaines de kilomètres carrés qu'il semble avoir été terrassé par des géants, dans une région si déshéritée que même les Touaregs l'évitaient, qu'était allé se cacher le métal de l'avenir. À partir de 71, la Somaïr produira 750 tonnes d'uranium et à partir de 74, 1500 tonnes. À 2 pour 1000, cela obligera à manipuler 750 000 tonnes de minerais chaque année. Les pistes désertes du nord d'Agadez sont donc devenues la route de l'uranium. Mais derrière les camions des techniciens, d'autres convois se sont vite mis en route vers Arlit. Ceux des chômeurs et des petits commerçants noirs, attirés par les emplois ou par l'argent que les techniciens ne manqueraient pas de dépenser. Des chercheurs d'uranium, dans un pays où la scolarisation est pratiquement nulle, l'histoire a de curieux raccourcis.
Ce curieux raccourci de 1970 est devenu un oubli total. On regarde aujourd'hui le Niger comme un pays sablonneux et pauvre auquel nous aurions été bien généreux de tendre la main dans la misère. Le sort des populations au Niger n'a pas l'air d'émouvoir, ni aujourd'hui, ni hier. Et parmi les civils, les grands perdants, ce sont assurément les habitants du désert, les Touaregs. Vous vous demandiez pourquoi il y a des séparatistes dans le nord Mali, des rebelles Touaregs au Niger ou au Tchad? La réponse donnée par les intéressés fait du sens. On écoute un extrait du documentaire « Niger, la bataille de l'uranium ».
Nous sommes au Niger. Au bout de cette route, Arlit, la ville où Areva exploite les mines d'uranium. Depuis mai 2007, des Touaregs ont pris le maquis. En attendant l'arrivée des chefs, notre escorte nous emmène sur les lieux d'un massacre qu'aurait perpétré, selon elle, l'armée nigérienne. Nos guides veulent nous montrer des preuves. Voici la carcasse d'un des chameaux. Un peu plus loin, un tas de pierres, des douilles sur le sol. Sous les cailloux, quelques restes humains.
Le gouvernement nigérien massacre notre population pour avoir les mains libres et pour pouvoir exploiter les richesses minières à son seul profit. Il fait massacrer les gens pour qu'il n'y ait pas de témoins qui puissent le déranger dans cette exploitation.
Une guérilla, pas une armée de conquête. Le chef de la résistance, président du mouvement nigérien pour la justice, Arali Alombo, souhaite nous parler.
Je me bats pour une cause qui touche ma communauté. Maladie que nous avons depuis longtemps, qui touche notre existence dans la région. Depuis 47 ans d'exploitation, il n'y a jamais eu 5 francs pour cette population.
Quelle exploitation ?
Minière. Il y a l'uranium, la Cominax, Somaïr, donc depuis 47 ans, il n'y a aucun franc qui tombe pour cette communauté de la région. Nous avons demandé 50% de ce pourcentage.
Aucun pays du monde ne nous aide. On s'entête nous-mêmes, on fait nous-mêmes auprès de l'armée. On n'a pas eu des aides d'un pays ou quelqu'un qui nous soutient, comme le dit le Niger. C'est leurs propres armes.
Il n'y a pas de bonne guerre, il n'y a pas de belle guerre. Et les sociétés minières, les partenaires, tous les partenaires qui sont intéressés par l'Union vont faire les frais de cette situation de guerre.
Notre premier contact avec la bataille de l'uranium commence par le défi de ces hommes.
Quand on entend tout ça, on se demande à quel moment la populaire lutte contre le djihadisme menée par la France se mêle à une répression des mouvements de révolte Touareg. Dans quelle mesure les troupes françaises ont servi à combattre les habitants du désert sur leur propre sol ? Vous allez l'entendre, une ville s'est créée pour ces mines, une ville nommée Arlit.
Un club, un dispensaire, des logements, de l'électricité, de l'eau. Mélangez le tout, agitez, vous aurez une ville. Un jour, il y aura quelques arbres. On a déjà engagé un pépiniériste. Des arbres verts poussent au centre d'un plateau absolument désertique. Il suffisait de creuser assez profond. Alors, pourquoi ne pas forer partout ? Parce que ces nappes d'eau ne sont pas réalimentées. Ce sont des nappes fossiles, emprisonnées là, qui s'épuiseraient si on les exploitait abusivement.
À Arlit, au nord du Niger, ce n'est pas l'industrie chimique qui fait la pluie et le beau temps, mais l'industrie nucléaire française, qui exploite d'immenses mines d'uranium depuis la fin des années 1960, grâce à des accords coloniaux lui assurant les meilleurs prix. À l'époque, les mineurs français bénéficiaient de mesures de contrôle et d'un suivi médical, tandis que leurs collègues africains, qui n'étaient pas considérés comme des travailleurs du nucléaire, ne disposaient d'aucune protection, d'aucune information, ni d'aucun suivi médical. Si certaines choses ont avancé du côté de la sécurité au travail, l'extraction du minerai atomique reste un désastre écologique et sanitaire, étouffé au nom des intérêts économiques et diplomatiques de la France. Mais les cours se sont effondrés à la suite de l'accident nucléaire de Fukushima. Le yellow cake, la pâte d'uranium, ne vaut plus un copec. En octobre 2019, Orano, anciennement Areva, a annoncé la fermeture en 2021 de la Cominac, qui embauchait 800 personnes, tandis que la Somaïr, elle aussi filiale du géant de l'atome français, a drastiquement réduit son personnel. Que va-t-on devenir ? Se demande-t-on dans l'un des pays les plus pauvres du monde. À Rouen comme à Arlit se joue la même partition. Des multinationales qui condamnent les populations à une double peine. D'abord subir les pollutions et les cancers causés par leur production, puis se retrouver au chômage quand la rentabilité ne suit plus. Et s'il était possible de reprendre des activités qui ne soient pas industrielles ? C'est la question que pose la réalisatrice nigérienne et fille de mineur, Amina Ouera, à la fin de son film « La colère dans le vent ». Je vous propose d'en écouter la bande-annonce.
Je suis née et j'ai grandi à Arlit, une ville au cœur du désert nigérien. À Arlit, depuis 1976, Areva exploite de l'uranium exporté vers la France. Il y a 40 ans, la création d'emplois et l'extension d'une ville nouvelle ont attiré des centaines de Nigériens qui voyaient là la possibilité d'une vie meilleure. Mais au fil du temps, le rêve est devenu un cauchemar. Une partie de l'année, la ville est balayée par les vents de sable, du sable contaminé. « Depuis mon enfance, je vois des gens souffrir des maladies bizarres auxquelles on ne veut pas donner de nom, ni expliquer les multiples symptômes. Mon père a travaillé dans la mine durant de longues années. Ce film dépoussière ses souvenirs, ceux de ses anciens collègues et des habitants anonymes. Aujourd'hui, je me demande quelle est l'histoire des personnes et des familles qui étaient exposées aux radiations depuis ces 3 décennies et qui sont aujourd'hui à la retraite.
Le tableau s'éclaircit. Areva a beau répéter qu'il ne s'agit pas de rapport de force, mais de partenariat, les gisements du Niger représentent un approvisionnement sûr grâce à une relation privilégiée, comme aiment dire les langues de bois. Et ce privilège, c'est pour nous. Parce que ce ne sont pas les Nigériens qui sont venus nous chercher. C'est sûr qu'il n'y a pas eu, jusqu'à ce mois de juillet, de conflit autour de ces minerais. Tout au plus quelques tensions, du temps d'Issoufou. Comme l'expliquent les experts de l'énergie, le pétrole, ça varie. Le cours, ça va et ça vient. L'uranium, lui, est plus stable. À part Tchernobyl et Fukushima, les grands accidents nucléaires, le prix dépend principalement de l'entente et de l'accord économique que l'on a avec le pays producteur. Plus stable, donc, surtout si on a le pays producteur dans la poche. Quand on sait qu'Areva, aujourd'hui, Orano, est resté longtemps numéro 1 mondial et que l'État français y est très majoritaire, on comprend pourquoi l'amitié avec le Niger est si importante. Si vous rajoutez à cela que le Niger fournit à l'État français un autre type d'uranium, celui à usage militaire, qui ne subit pas du tout de contrôles internationaux, alors il devient évident qu'il y a un rapport de dépendance. Le Niger, aujourd'hui, a besoin de la France et des partenariats internationaux pour sa survie économique, l'uranium étant son principal export, et la France a besoin du Niger. En 2007, en pleine résurgence du mouvement de révolte Touareg, le gouvernement nigérien a tapé du poing sur la table et fait un rééquilibrage dans le partenariat avec Areva pour ne plus être les exploités. Mais en réalité, même avec les renégociations de 2014 qui ont fait passer de 5,5 à 12% les bénéfices pour le Niger, le compromis trouvé pour le montant de la commission que touche le Niger est loin, très loin des 50% réclamés par les Touaregs. Et en 2007, toujours, pendant le temps de ces renégociations qui occupaient l'espace médiatique nigérien, le président d'alors renforçait les pouvoirs de l'armée dans la zone du Nord, zone du désert, zone de l'uranium. Autour d'Arlit, il n'y a pas d'autre ville. Les personnes venues là pour profiter des retombées financières des mines d'Areva sont toutes regroupées ensemble. Dans la ville d'Arlit, il y a beaucoup de métaux, de tuyauteries, etc. recyclées des mines. Une source gigantesque d'exposition aux radiations. Les deux hôpitaux de la ville ont beau être gratuits et financés par l'entreprise minière, ça ne peut pas empêcher ces 80 000 personnes d'être en danger et de développer des maladies liées à la radioactivité. Et comme les Toubibs sont salariés d'Areva, Orano, ils ne diagnostiquent pas tant de cancers que ça, alors que les gens en meurent. Impossible de savoir combien de gens ont déjà été contaminés. Mais de façon surprenante, depuis l'ouverture de la mine, il n'y a eu que 2 cas recensés par les médecins de maladies au travail. Payer les Toubibs, selon le porte-parole d'Orano, ce n'est pas un conflit d'intérêts, c'est un engagement sociétal. On voudrait croire à leur bienfaisance et à leur esprit communautaire, hein ? Comme dit et répété à toutes mes émissions, la France doit enfin accepter que l'histoire de l'Afrique s'écrive sans elle. Pour cela, l'armée française, qui avait trouvé dans un déplacement de groupes armés djihadistes un prétexte formidable pour se déployer en Afrique de l'Ouest il y a 10 ans, doit quitter le Sahel et l'Afrique en général. C'est la fin de ce billet d'Afrique. J'espère que vous vous souviendrez du prix que payent les habitants du Niger pour que nous puissions avoir du nucléaire la prochaine fois que vous appuierez sur un interrupteur. Je vous laisse avec l'artiste Bombino, un Touareg nigérien, guitariste et chanteur, qui a subi la censure par le pouvoir, jusqu'à même l'interdiction de jouer de la guitare, et ce jusqu'en 2007. Malheureusement, deux des musiciens qui jouaient avec lui ont été exécutés par l'armée en 2009. Le morceau qu'on va entendre est joué à Agadez devant une foule ravie lors de son retour d'exil. Pour les temps qui viennent, je vous conseille d'écouter l'actualité avec attention et à prendre soin de remettre dans le contexte. Prenez garde, les bons amis de la France sur le continent africain ne sont pas toujours ceux des populations. Nous nous retrouverons en 2024 pour continuer de creuser dans les dossiers de la France coloniale qui n'en finit pas de crever. Vous, portez-vous bien.